troisième temps de notre série consacrée à des portraits de villes en mouvement. Après Chicago lundi, Paris hier, avec notre documentaire sur l'évolution des usages de la Seine entre 18e et 20e siècle. Et avant Bagdad demain, aujourd'hui Lisbonne. Lisbonne, donc, au menu de cette série d'émissions qui tente de décrire les évolutions de quelques grandes villes sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et Lisbonne, évidemment, en raison du tremblement de terre qui détruisit la ville en 1755, de la reconstruction qui s'ensuivit, et des aléas d'une cité entre industrie du 19e siècle et tourisme du 20e. Pour cette émission construite par Anaïs Kien, nous recevons Grégory Quenette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste d'histoire environnementale, auteur entre autres des tremblements de terre au XVIIe, XVIIIe siècle chez Champvallon. Et nous serons en duplex avec les studios de la RTP, la radio-télévision portugaise, avec Frédéric Vidal. Il est professeur à l'Institut universitaire de Lisbonne, chercheur au CRIA et auteur d'une thèse qui s'intitulait « Les habitants d'Alcantara aux presses universitaires du Septentrion ».
L'impression dominante quand on aborde le Portugal, c'est son air de prospérité, son aspect de chantier, la fièvre de construction qui l'anime. À Lisbonne, des quartiers entiers s'édifient chaque jour, des cités ouvrières suburbaines, propres, coquettes, aux couleurs vives et qui ressemblent, quand on les survole en avion, à de charmantes constructions d'enfants. J'ai été impressionné par le Stade National à quelques kilomètres de la capitale, immense amphithéâtre de marbre et de pierre qui s'ouvre sur un décor grandiose et qui peut contenir plus de 100 000 spectateurs. Les Portugais d'ailleurs en sont très fiers, car il leur apparaît comme un symbole, comme un acte de foi dans la jeunesse et dans son avenir. J'ai visité également l'Institut du Cancer, l'un des plus modernes, sinon le plus moderne du monde. J'ai roulé sur des autostrades lisses comme des billards. J'ai vu s'édifier de grands barrages, se construire des usines. Et dans la vieille université de Coimbra, des quartiers entiers de taudis pittoresques tombaient sous la pioche des démolisseurs, tandis que s'élevaient les immenses buildings de la future cité universitaire. Ce qui m'a paru remarquable aussi, c'est la propreté qui règne dans les villes. Et cela malgré un certain côté oriental qui nous rappelle à chaque pas non seulement que ce pays a connu des siècles durant la domination arabe, mais aussi qu'il a été influencé par ses conquêtes jusque dans son style architectural, son art, son folklore et certaines mœurs de ses habitants. J'irais même jusqu'à dire dans certains paysages, et je songe en particulier en disant cela au spectacle du Tage roulant ses eaux d'argent au soleil couchant, tandis que des barques aux voiles quadrangulaires comprendrait pour des jonques, le sillonne en tous sens. Mais il faut se méfier des premières impressions, et si j'en jugeais uniquement par les vitrines des magnifiques magasins du Chiado, le quartier commerçant de Lisbonne, ou par les menus de ses restaurants, je vous dirais que l'abondance y règne, même qu'on y mange trop, alors que le Portugal, en réalité, est un pays pauvre, et qu'une bonne partie de la population y est sous-alimentée. Et le spectacle de certains quartiers populaires de Lisbonne ou de Porto est édifiant à cet égard avec ses bataillons d'enfants en guenilles ou de mendiants qui vous harcèlent malgré les sévères interdictions théoriques. Et toute cette fièvre de construction, ces réalisations sociales parfois audacieuses, vont de pair avec certains spectacles archaïques ou sordides. Et dans les rues de bien des villes, on peut voir l'attelage de bœufs du temps des Carolingiens précéder le flot des grosses voitures américaines. À moins de 4 heures d'avion de Paris, le Portugal offre ainsi un curieux mélange où l'Occident se marie à l'Orient et le XXe siècle au Moyen-Âge. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il est dans tous ses aspects l'héritier d'un passé qu'il a façonné et marqué plus qu'aucun autre peut-être.
Voilà donc une archive de 1949 que vous avez retrouvée dans les archives de l'Institut National de
l'Audiovisuel. Elle était tellement savoureuse.
Anaïs Kien, oui. Donc une archive savoureuse où on montre le contraste lisboète, mais évidemment on n'a toujours pas compris que Lisbonne était à l'ouest de l'Europe et non pas à l'est, et qu'on décrit toujours cette ville comme étant une ville orientale. Bonjour Grégory Quenette.
Bonjour Manuel.
Et bonjour à vous Frédéric Vidal, vous êtes en duplex depuis les studios de la radio-télévision portugaise. Qu'est-ce que vous pensez d'une archive de 1949 comme celle-ci, vous qui vivez depuis si longtemps à Lisbonne, cette confusion Orient-Occident, ce mélange d'un pays qui aurait été influencé par le côté oriental et même influencé par les mœurs arabes et la domination arabe?
Oui, bonjour. Oui, c'est une archive en fait très, très intéressante. Je ne connaissais pas. Elle reprend beaucoup des thèmes qu'on voit surgir dans les sources à partir des années 20 sur la construction de cette image touristique de Lisbonne, donc faite, comme vous venez de le dire, de contraste, de cette relation un peu particulière avec ce folklore, ce populaire hein, qui émerge autour des quartiers populaires. Et puis surtout, cette idée de ville-paysage hein, avec
l'otage,
évidemment, et cette orientalisation hein, de l'image, de la construction de l'image. On retrouve tous ces thèmes à partir des années 20, notamment dans les publications internationales, dans le National Geographic Magazine qui fait en 26, il me semble, un dossier spécial sur Lisbonne où il y a des photos de ce tâche avec les palmiers, etc. Donc cette orientalisation du regard sur Lisbonne est en fait très, très, très forte, surtout à partir de cette construction de l'image touristique de la ville.
Rassurez-moi, vous qui vivez à Lisbonne, vous n'avez pas beaucoup croisé d'attelage de bœufs dignes des Carolingiens, comme cet auteur de 1949 dont nous ne connaissons pas le nom.
Oui, non, mais c'est aussi un des thèmes. C'est aussi un des thèmes très forts de cette relation un peu contrastée, un peu complexe avec l'idée de modernité, hein, le tourisme, l'image touristique de Lisbonne, c'est pas l'image d'une ville moderne, de la modernité, c'est plutôt cette image de la ville traditionnelle. Là, il faudrait peut-être parler du contexte politique de l'échelon nouveau, hein, de l'État nouveau, qui à partir des années 30 développe
sous l'égide de Salazar.
Voilà. Et qui développe une identité traditionnelle, rurale du Portugal. Et Lisbonne l'image de Lisbonne reprend un peu cette tradition d'une ville un peu, comment on pourrait dire, non urbanisée, enfin une ville traditionnelle.
Une addition de quartiers qui sont côte à côte, et on en parlera avec vous dans un instant. Alors peut-être pouvons-nous revenir au début de cette histoire, à ce nouveau début qu'a été le tremblement de terre de 1755, à ces transformations qui sont liées, les transformations urbaines qui sont liées aux destructions nombreuses de ce tremblement de terre. Grégory Connette, vous avez écrit donc un ouvrage chez Chamballon qui s'intitulait « Les tremblements de terre au XVIIe, XVIIIe siècle », donc on est en plein dans la période avec le tremblement de terre de Lisbonne, qui, il faut le dire, est sûrement le plus important en termes symboliques de toute cette période, sinon le plus important en termes de morts et de gens qui sont sous les décombres et de destruction de villes, mais néanmoins qui, par son impact symbolique, aura été très important pour toute la période de la fin du XVIIIe siècle, en particulier Grégory Connette.
Oui, parce qu'il déclenche à la fois un débat philosophique sur le mal, qui reprend, réorganise des arguments qui étaient antérieurs, avec l'intervention de Voltaire, le débat avec Rousseau. Il y a aussi le mémoire d'Emmanuel Kant sur la cause des tremblements de terre, après les souvenirs de Goethe. Et d'un autre côté, il y a aussi un débat scientifique qu'on a souvent oublié, qui a porté sur la cause de la diffusion des secousses, puisque ce tremblement de terre a été ressenti de l'Islande à l'Afrique du Nord et des États allemands jusqu'à Boston, même sur la côte du Brésil. Et c'est un événement qui a une magnitude absolument extraordinaire, avec une très longue période de retour. Aujourd'hui, on en connaît un petit peu mieux, c'est une zone de subduction à l'ouest de Gibraltar, et des événements majeurs qui reviennent tous les 2000 ans ou plus.
Anaïs Kier.
Ce qui est véritablement nouveau, des tremblements de terre relativement importants, on en a déjà connu, c'est la réaction humaine finalement, les différents types de réactions humaines, c'est-à-dire l'intervention politique, le volontarisme politique immédiat au lendemain de la première secousse et du premier des premières morts, mais également dans la manière dans la façon dont les hommes vont changer leur regard sur ce type d'événement-là.
Oui. Le tremblement de terre intervient dans...
Je vous ai posé deux questions en même temps.
Oui. Donc on va peut-être
commencer justement par cette intervention politique innovante à ce moment-là.
Voilà. Le tremblement de terre intervient dans un contexte particulier, justement, qui montre la singularité de Lisbonne, qui est à la fois une ville proche et lointaine, effectivement. Et donc cet aspect joue, puisqu'à la fois c'est un miroir qui est présenté à l'Europe de la destruction d'une grande capitale, et en même temps c'est une sorte de repoussoir, puisque c'est déjà une ville sur le déclin, c'est une ville qui est jugée comme corrompu, abîmé dans le luxe, et finalement ce tremblement de terre mettrait fin à ces excès. Donc ça d'un autre côté, et de l'autre côté l'autre élément de contexte, c'est que dans ces années 1750, eh bien il y a des débats philosophiques importants sur la causalité divine et sur le mal. Et donc le choc de Lisbonne va finalement offrir une sorte de tribune européenne à un certain nombre, d'arguments qui étaient déjà là et qui vont bousculer finalement l'ordre religieux établi et philosophique. Alors,
c'était le 1er novembre 1755 pour la première secousse, la plus dramatique, même s'il y aura des répliques ensuite. Environ 10 000 personnes qui meurent dans ce tremblement de terre, oui. Des destructions majeures du patrimoine, parce que évidemment ce tremblement de terre s'accompagne, comme souvent dans ces cas-là, d'un incendie gigantesque, et donc d'une certaine façon la ville est en grande partie, sinon totalement, en grande partie détruite par ce tremblement de terre, et il va falloir assez rapidement prendre des, comme le disait Anaïs à l'instant, prendre des décisions politiques pour pouvoir faire quelque chose à partir de cet amas de ruines. Et il faut citer tout de suite le nom du marquis de Pombal, donc qui va prendre les choses en main très rapidement.
Oui, très rapidement, et effectivement, pour rebondir aussi sur la question, faire le lien avec la question d'Anaïs, c'est une gestion exemplaire, en fait, très autoritaire, puisqu'il met fin au pillage très rapidement en faisant quelques pendaisons exemplaires. Il s'occupe de faire ramasser les corps dans les rues pour les jeter, pour éviter la diffusion des épidémies.
Et il va interdire dans le fleuve.
Dans le fleuve, voilà, exactement.
Il fait une tournée d'inspection le lendemain même à cheval, alors qu'on sait bien qu'après ce type d'incidents naturels, finalement les conséquences se poursuivent pendant des jours et des jours et des jours, et qu'il est toujours dangereux de marcher dans une ville qui vient de subir une secousse telle que celle-ci.
Il comprend très bien que l'enjeu majeur, c'est finalement ce qui suit les secousses. L'incendie règne toujours, et c'est le moment où il faut reprendre le contrôle de la ville, d'autant plus que le souverain s'est enfui, et lui absent, et il va mettre en scène, finalement de manière fictive, la présence du souverain pour conserver la légitimité du pouvoir politique. Et là aussi, c'est un lien tout à fait intéressant. C'est un tournant, puisque c'est la première fois que la catastrophe atteint le pouvoir politique dans sa légitimité, alors que traditionnellement, les souverains se tiennent à distance de la catastrophe. Il faut se rappeler Louis XIV et les tremblements de terre, et parce que ce sont des présages funestes. Eh bien, le souverain, le corps physique du souverain et la catastrophe sont réunis dans le même théâtre.
Et donc ce marquis de Pombal, qui est-il pour pouvoir prendre ces initiatives et avoir autant de poids, pourrait-on dire, dans un moment aussi catastrophique que celui-ci, c'est-à-dire à la fois décider d'exécution de pillards, vis-à-vis de l'Église qui est très importante, qu'elle finisse par accepter qu'on n'enterre pas les cadavres mais qu'on les jette dans le fleuve, et surtout de décider très rapidement la construction d'une ville de bois qui va momentanément permettre à tous les survivants de se loger pendant un certain temps, Grégory Quenette.
C'est un homme des Lumières, un administrateur éclairé dans sa double dimension à la fois, philosophique et autoritaire. Et il va notamment s'entourer très rapidement d'architectes militaires, et c'est le modèle qui va servir à la fois la gestion de la ville et sa reconstruction. Ce qui fait le lien d'ailleurs avec l'archive des débuts, puisque finalement ce qui disparaît, c'est la ville médiévale. La ville médiévale qui était marquée par les influences arabes, et donc la reconstruction est vue comme finalement une ville des Lumières qui s'impose contre le vieux modèle désordonné. C'est l'article de l'Encyclopédie méthodique de 1781 qui le mettra cela en scène, la fin de ce vieux désordre d'un côté, et d'autre part c'est la fin du modèle baroque pour imposer un modèle de vertu civique, d'espacement, de circulation de l'air, de sobriété, de commerce, qui est celui de la nouvelle Lisbonne.
Alors, avant même qu'on se mette à reconstruire, l'écho de ce tremblement de terre de Lisbonne parvient dans toutes les capitales européennes, et on peut dire qu'il participe aussi de la naissance d'une sorte d'opinion européenne, pourrait-on dire, vis-à-vis d'une catastrophe comme celle-ci, de prise de conscience. Une émotion européenne, et parmi eux, évidemment, le fameux texte de Voltaire qui est lu ici par Emmanuel Lemire.
Ô malheureux mortel, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblage effroyable, d'inutile douleur éternel entretien, philosophe trompé, qui criez « tout est bien ». Accourez, contemplez ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ses femmes, ses enfants, l'un sur l'autre entassés, sous ses marbres rompus, ses membres dispersés. 100 000 infortunés que la terre dévore, qui, sanglants, déchirés et palpitants encore, enterrés sous leur toit, terminent sans secours, dans l'horreur des tourments, leur lamentable jour. Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui, d'un Dieu libre et bon, nécessite le choix? Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime? Quel crime? Quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant? Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris, plongée dans les délices? Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris. Tranquilles spectateurs, intrépides esprits, de vos frères mourants contemplant les naufrages, vous recherchez en paix les causes des orages. Mais du sort ennemi, quand vous sentez les coups, devenus plus humains, vous pleurez comme nous. Croyez-moi, quand la terre entr'ouvre ses abîmes, ma plainte est innocente et mes cris légitimes. Partout environnés des cruautés du sort, des fureurs des méchants, des pièges de la mort, de tous les éléments éprouvant les atteintes, compagnons de nos maux, permettez-nous les plaintes. C'est l'orgueil, dites-vous, l'orgueil séditieux, qui prétend qu'étant mal, nous pouvions être mieux? Allez interroger les rivages du Tage, fouillez dans les débris de ce sanglant ravage. Demandez aux mourants, dans ce séjour d'effroi, si c'est l'orgueil qui crie « Ô ciel, secourez-moi ! Ô ciel, ayez pitié de l'humaine misère !» Tout est bien, dites-vous, et tout est nécessaire. Quoi l'univers entier, sans ce gouffre infernal, sans engloutir Lisbonne, eût-il été plus mal? Êtes-vous assuré que la cause éternelle qui fait tout, qui sait tout, qui créa tout pour elle, ne pouvait nous jeter dans ces tristes climats sans former des volcans allumés sous nos pas? Borneriez-vous ainsi la suprême puissance? Lui défendriez-vous d'exercer sa clémence? L'éternel artisan n'a-t-il pas dans ses mains des moyens infinis tout prêts pour ses desseins? Je désire humblement, sans offenser mon maître, que ce gouffre enflammé de soufre et de salpêtre eût allumé ses feux dans le fond des déserts. Je respecte mon Dieu, mais j'aime l'univers. Quand l'homme ose gémir d'un fléau si terrible, il n'est point orgueilleux, hélas, il est sensible. Poème sur le désastre de Lisbonne, où, examen de cet axiome, tout est bien.
Emmanuel Lemire lisait pour Continent Science, dans une émission qui avait déjà été consacrée à cette question des tremblements de terre, ce texte de Voltaire. Alors Grégory Quenette, commentaire non pas littéraire, je sais qu'on est en période du bac, mais ça n'est pas le moment de faire un commentaire littéraire de ce texte de Voltaire. Très beau texte, mais néanmoins aussi, comme le disait Anaïs avant qu'il ne soit lancé, ce texte, tout de même, la sensibilité européenne, la façon de se dire, eh bien, j'aurais préféré que cela se passe au fond des déserts plutôt que tout près d'ici.
La nouveauté de ce texte, c'est d'affirmer pour la première fois que le mal physique est un scandale et que rien ne peut le justifier en termes théologiques. Et effectivement, Voltaire utilise cet espace européen puisque le tremblement de terre de Lisbonne est le premier événement finalement à dimension européenne, chaque habitant de l'Europe ayant ressenti au même moment la secousse. C'est ça qui est absolument prodigieux dans un système où l'information circule très, très lentement. D'où cette tension finalement là-bas plutôt qu'ici, et en même temps Lisboète, nos frères. Dans le détail, en fait, le poème est plus complexe, puisque Voltaire, par le procédé classique de l'ironie voltairienne, eh bien, en quelque sorte, détourne l'attention en attaquant un ennemi pour mieux masquer ses contradictions. La contradiction est la suivante, c'est qu'une des conclusions logiques de ces arguments serait l'athéisme. Et cela, ce n'est pas possible. Il faut préserver un déisme, la figure d'un dieu. Et donc, finalement, en attaquant un courant lamnisien, qui est celui de la théodicée, de l'optimisme, il détourne l'attention. Mais finalement, quand on regarde les textes postérieurs, il y a, on voit poindre un certain fatalisme, c'est-à-dire se soumettre à cette nature incompréhensible, finalement, à cette puissance divine.
Anaïs ?
Oui, puis peut-être ce qu'il faut noter, c'est cette émotion à l'endroit de l'événement, mais c'est aussi cette, la grande audience que va connaître ce texte de Voltaire.
Oui, comment dire, Marie-Antoinette, d'après sa femme de chambre, se rappelait toute sa vie être née, comment dire, le jour du tremblement de terre de Lisbonne, si mes souvenirs sont justes. Et dans la mémoire européenne, c'est un événement important. Il y a aussi des éléments de contexte. Hein, c'est la découverte de Pompéi en 1748, Herculanum 1719. Donc, il commence à y avoir une sorte de passion pour la civilisation, pour les civilisations disparues, pour les ruines, qui accentue l'impact de ce texte-là. Et c'est un texte qui est repris, commenté. Hein. Je parlais de Kant, il y a la lettre de Rousseau, qui est sur une position très différente. Hein. Rousseau dit les hommes sont responsables parce qu'ils s'ils ne s'étaient pas réunis en si grand nombre à cet endroit, construisant des immeubles, eh bien il n'y aurait pas eu autant de morts.
Frédéric Vidal, vous n'êtes pas encore intervenu, vous êtes professeur à l'Université de Lisbonne et chercheur au CRIA à Lisbonne. Vous avez travaillé, vous, sur un quartier, le quartier de l'Alcantara au 19e et 20e siècle. Mais néanmoins, quand on travaille sur un quartier urbain du 19e du 20e, on se pose, j'imagine, la question des reconstructions successives, justement, qui ont succédé à ce tremblement de terre de Lisbonne en 1755, et en particulier à la ville qui a été laissée par ce marquis de Pombal, très brièvement décrite tout à l'heure par Grégory Quenette, de grandes avenues, des grandes places, la place du Commerciaux au bord du Tage, et puis de grandes avenues qui sont le signe aussi d'un nouvel urbanisme beaucoup plus bien différent de celui des siècles précédents, Frédéric Vidal.
Oui, en effet, le quartier d'Alcantara, qui a été l'objet de mon étude dans le cadre de ma thèse, se développe après le tremblement de terre, et c'est lié à déplacement de population. C'est un quartier qui se situe dans la partie occidentale de la ville, et qui va prendre tout son essor au moment de la reconstruction, précisément. Juste pour préciser, en fait, le marquis de Pombal s'appuie aussi sur une pensée de la ville qui précède un peu le tremblement de terre. Ces architectes militaires dont parlait Grégory Quenet avaient déjà pensé un peu ce changement hein, de l'espace urbain. Et c'est l'une des raisons qui fait que la reconstruction, les projets de reconstruction vont être extrêmement rapides après 1755.
Vous voulez dire qu'il y a un travail de préparation intellectuelle qui précède justement cette catastrophe.
Je m'engage dans un champ qui n'est pas du tout ma spécialité, mais les historiens de l'architecture, les historiens de l'urbanisme portugais ont beaucoup travaillé ces dernières années sur ces questions et ont montré qu'il y avait déjà, et c'est toute la complexité en fait et tout le paradoxe un peu de l'histoire urbaine, de l'histoire de Lisbonne, il y a cette modernité qui est assez précoce hein, au XVIIIe siècle, qui accompagne une pensée de la ville avec des ingénieurs, des architectes, des militaires hein, qui vont avoir une pensée urbaine assez moderne, une pensée de la ville, une vision de la ville assez moderne, et qui au XXe siècle hein, va entrer en conflit ou en opposition avec cette idée de ville populaire.
C'est-à-dire une grande modernité après le tremblement de terre et ensuite une sorte de conservatoire sous l'Estado Novo sur lequel vous avez travaillé, d'une ville plutôt effectivement à addition de petits quartiers populaires, c'est ce que vous voulez dire?
Oui. Il faut aussi tenir compte, sans doute, il y a la ville hein, de papier, en fait, la ville qui est pensée par les architectes. Puis après, la construction, elle va durer pendant près d'un demi-siècle. Au début du 19e, il y a encore beaucoup il y a des études qui ont montré qu'il y avait encore beaucoup de quartiers, même dans le centre de la ville, qui étaient encore en ruine. Et le premier 19e siècle, aussi marqué par une guerre civile, et c'est seulement à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, la ville de Lisbonne va se transformer radicalement, notamment dans le cadre du processus d'industrialisation. Et c'est là qu'Alcantara va aussi, le quartier d'Alcantara va se développer. Ça va être l'un des grands pôles de l'industrialisation de la ville et du pays dans son ensemble.
Anaïs Kia.
Grégory Connette, vous opinez à l'intervention de Frédéric Vidal. Donc, si l'on entend bien, cette ingénierie urbaine est prête à reconstruire la ville d'une telle façon, mais est-elle prête à s'adapter à cette question des aléas des catastrophes naturelles et comment ces aléas naturels vont-ils être interprétés dans la reconstruction de la ville?
Le modèle qui a servi a été effectivement un modèle anglais, en réalité, puisque Pombal envoie un ambassadeur portugais entre 1739 et 1742 à Londres pour observer l'architecture néopaladienne. Or, cet envoyé observe le Londres reconstruit après le grand incendie des années 1660. Donc il y a déjà une catastrophe qui est là. Et ensuite, dans la mise en œuvre, eh bien, il y a des mesures tout à fait innovantes qui vont être mises en place, et notamment un système qui s'appelle la gaiola, qui est en fait
une structure en bois
flexible, en quelque sorte sismotectonique, de manière anachronique, permettant une certaine souplesse du bâtiment. Aussi des systèmes de citernes connectés entre les bâtiments et sous la rue. Donc il y a aussi à la fois un modèle préexistant et puis des innovations architecturales, avec la limite bien sûr de la mise en œuvre.
Innovations qui prennent en compte justement le caractère de la ville aussi, sa dimension assez montueuse, son rapport au fleuve, etc., etc. J'imagine qu'il y a à la fois une volonté d'apparaître dans la façon dont on construit cette ville, puisqu'il y a cette grande place du commerce qui est au bord du fleuve et ces avenues qui en partent, mais aussi on prend en compte ce caractère sismique, on prend en compte tout cela pour pouvoir reconstruire.
Oui, en utilisant un déplacement aussi des édifices, puisque les principaux monastères et les principaux édifices royaux étaient finalement au bord du Tage, dans cette zone-là, et ils ne vont pas être reconstruits exactement au même endroit, donc en quelque sorte cela libère de l'espace, qui permet une modernisation, une ville plus aérée, et aussi d'éloigner finalement de ces risques, ces édifices de ces risques.
Alors Frédéric Vidal, vous nous expliquiez tout à l'heure que, évidemment, une catastrophe peut profiter à d'autres endroits d'une ville ont été moins touchés ou qui, d'une certaine façon, n'étaient pas encore suffisamment construits. C'est ce qui se passe pour le quartier sur lequel vous avez travaillé pour votre thèse, ce quartier de l'Alcantara. Il démarre, plus ou moins, d'après ce que j'ai cru comprendre en vous lisant, il démarre justement parce que l'Alfama et la Baïcha, qui sont deux autres quartiers du centre, ont été entièrement détruits par ce tremblement de terre, et qu'il faut donc continuer à vivre, et donc on va faire démarrer à l'ouest de la ville ce quartier de l'Alcantara, qui n'a pas encore le caractère industrieux ou industriel qui sera le sien à la fin du 19e siècle.
Oui, en effet, c'est un quartier qui va être symboliquement la paroisse d'Alcantara. Elle naît juste après le tremblement de terre. S'il y a un déplacement d'une paroisse du centre de la ville vers donc cette zone occidentale, et la population va croître dans les années qui suivent le tremblement de terre, avec tout un réseau de petites en industries liées au bâtiment, à la chaux, etc., qui vont participer à la reconstruction de la ville. Mais je pense qu'il faut, quand on parle du quartier industriel d'Alcantara, industrialisé...
C'est fin 19e.
C'est plutôt, oui, à partir des années 1850-1860, que le quartier va gagner cette force au niveau de l'industrialisation, et va être reconnu comme le quartier industriel, le quartier ouvrier de Lisbonne.
Anaïs Quin.
Oui, Grégory Connette, jusqu'ici on parlait de la reconstruction matérielle de la ville, mais il y a aussi peut-être une redistribution humaine et une modification des comportements humains, une redistribution de la population sur l'espace de la ville, et un changement dans la manière de voir sa ville et de voir son destin également. De voir les comportements qui pourraient être modifiés par la possibilité d'un nouvel accident tel que celui-ci.
Alors là, vous me posez une colle, je vais avoir du mal à répondre. En fait, la question que vous posez
est
difficile à traiter avec. Elle est difficile à traiter avec les archives, finalement. Mmh. Elle est très importante. Et vraisemblablement, on le voit à partir des mesures qui sont prises, il y a, une prise en compte de la possibilité d'une menace assez tôt, finalement, que l'on a peut-être sous-estimée dans l'histoire, mais qui relève d'une sorte de culture empirique, pratique, qui n'est pas forcément exprimée et théorisée. Ou alors que les historiens n'ont pas suffisamment travaillé, c'est aussi une possibilité.
Alors si on passe à ce 19e siècle sur lequel vous avez travaillé, et 20e siècle également, Frédéric Vidal avec vous dans cette ville de Lisbonne. Je rappelle que nous sommes dans une série d'émissions qui s'intitule « Portrait de villes en mouvement » où nous prenons des villes sur la longue durée et nous tentons de voir comment elles ont évolué. Hier, c'était la Seine à Paris entre le 18e et le 20e siècle. Demain, nous parlerons de Bagdad et après-demain de Londres. Pour ce qui concerne justement ce quartier de l'Alcantara sur lequel vous avez travaillé, vous travaillez, vous, sur les changements de regard portés sur un quartier comme celui-ci, quartier dont vous nous dites qu'il est industriel à partir des années 1860, mais qui n'est pas regardé de la même manière à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e siècle, ce qui prouve que peut-être aussi le regard porté sur la ville, le regard porté sur Lisbonne et la capitale a changé entre-temps.
Oui, à partir d'Alcantara, ce que j'ai essayé d'analyser, c'est un peu ce paradoxe dont on parlait au début de l'émission, sur le paradoxe, la modernité de la ville, de la représentation de la ville au Portugal. C'est un quartier, oui, qui est industrialisé plus qu'industriel, puisqu'il n'y a pas de mono-industrie, hein, c'est plutôt une industrie liée à la vie de la ville, une industrie urbaine, hein, d'une consommation, un marché assez limité, hein, dans l'espace, bien que, bon, à partir de la fin du 19e siècle, il y a des grandes industries, mais qui ont très vite, pour une question d'espace, vont partir sur la rive sud du Tage. Mais c'est un quartier qui a... Bon, c'est l'histoire d'un quartier qui a un faubourg, hein, au début du, enfin dans cette deuxième moitié du 19e siècle, qui a toujours un peu regardé, bon, à distance, qui n'est pas complètement intégré à la ville dans les descriptions, dans les cartes, dans les images de la ville qu'on peut saisir, on peut retrouver dans les archives. Alcantara est toujours vraiment, c'est le quartier périphérique, hein, de Lisbonne, même bien qu'il soit mais qui fasse partie de la ville, mmh, en tant que de la commune, hein, de Lisbonne. Et c'est le changement de regard sur Alcantara, il coïncide aussi avec un changement de contexte politique à partir du début du XXe siècle et du début du mouvement républicain.
La Première République, c'est en 1910.
Voilà, la Première République s'est instaurée en octobre 1910. Et le mouvement républicain qui se développe au tout début du XXe siècle est un mouvement essentiellement urbain. Et Alcantara est l'un des bastions de ce mouvement républicain à Lisbonne et puis dans le pays. Et le regard porté sur Alcantara va changer à partir de ce moment-là, parce qu'il y a tout un tas de réseaux d'associations, associations de quartier, d'écoles, des écoles républicaines, qui vont donner une autre image, hein, de cet espace urbain, avec de nouveaux acteurs qui émergent, hein, des dirigeants de ces associations, ce qu'on peut appeler une notabilité, hein, de quartier, et un mouvement associatif très, très, très vivant, hein, au moins jusqu'au tout début de l'Echelonov.
Anaïs Kien.
Oui, Frédéric Vidal, dans un de vos articles sur la question du voisinage, vous vous intéressez à une société de voisins dans ces faubourgs de Lisbonne. Vous interpellez vous-même et votre lecteur sur la question du quartier mis en relation systématiquement avec Lisbonne. C'est-à-dire, est-ce que cette accumulation de micro-sociétés, de quartiers, n'a-t-elle pas recouvert finalement, d'une certaine façon, l'histoire même de l'histoire urbaine, l'histoire de l'urbanisation de Lisbonne et de ses alentours?
Oui, c'est cette image cette image, donc, qui a des origines idéologiques, hein, liées donc à l'Echelonov, cette image du quartier populaire, qui est une construction politique, sociale, qui est qui va s'affirmer très fortement dans les années 30, notamment avec des fêtes, les marches populaires, les marches à Saint-Antoine, qui ont eu lieu le week-end dernier, qui sont toujours très très fortes à Lisbonne. Et c'est des fêtes, grosso modo, c'est une espèce de compétition entre les différents quartiers de la ville.
Oui, comme le Palio peut l'être à Sienne, par exemple.
Voilà, c'est cette image. C'est des fêtes populaires, hein, très, mais qui étaient, dont l'origine remonte au 15e, 16e siècle. Mais à partir des années 30, il y a une politique municipale, hein, très, très active, hein, de développement de ces marches populaires. Donc il y a une construction de cette image lié aussi à l'image touristique de la ville, mais qui, c'est ce dont l'article dont vous faisiez allusion, je m'interroge aussi sur comment les sciences sociales aussi...
On construit ce regard de quartier.
Voilà, qui on a beaucoup travaillé, enfin les sciences sociales portugaises ont beaucoup travaillé, pas seulement l'histoire, surtout même l'anthropologie, la sociologie, à partir de ces sociétés de quartier, de ces espaces, et on a beaucoup réfléchi à partir de l'échelle micro-sociale, et donc renforçant, une espèce de mouvement de renforçant cette image de ville faite de juxtaposition de petites communautés. Et on a peu pensé finalement la modernité, la modernisation de la ville.
Alors une modernisation qui se fait de façon contrastée, puisque vous nous avez expliqué que ce quartier de l'Alcantara à Lisbonne est un quartier industriel à la fin du 19e, qu'il va devenir dans les yeux de tout le monde un quartier populaire, ce qui selon vous ne dit pas la même chose. Faubourg ouvrier d'abord, quartier populaire ensuite. Un lieu, donc, dites-vous, quand on est un quartier populaire, il y a une pluralité de fonctions, d'usages et d'enjeux. Et vous expliquez également que le tourisme joue son rôle dans cette façon dont on va objectiver ce quartier de l'Alcantara et le transformer au regard de tous, parce que ce tourisme, justement, a besoin de ces signes du populaire qu'il se crée pour pouvoir, justement, permettre aux voyageurs, quels qu'ils soient, de reconnaître ce qu'est un quartier populaire, et l'Alcantara correspond à cette norme, pourrait-on dire.
Oui, malgré, ça peut paraître paradoxal, parce que c'est Alcantara, une histoire très particulière dans l'histoire de la ville, enfin, qui peut sembler un peu particulière, un peu spécifique, parce que c'est lié donc à ce mouvement d'industrialisation, mais qui, dès les années 30, donc, participe pleinement de cette transformation de l'image de Lisbonne, l'image touristique de Lisbonne autour de ces quartiers populaires.
Et qu'est-ce qu'on y cherche dans ces quartiers populaires quand on est touriste dans les années 20, dans les années 30? On y cherche les échos de certains écrits d'écrivains qui eux-mêmes ont participé à la popularisation de ces quartiers?
Alors, l'un des plus systématiques, disons, sur Lisbonne, c'est un guide de 1924 qui est écrit par Raul Proença, qui est un écrivain portugais très connu à l'époque, fait une description donc de ces quartiers de Lisbonne. Et le quartier populaire, c'est surtout une ambiance, un milieu, une morphologie urbaine très spécifique. Mais les habitants sont un peu ramenés à des stéréotypes, avec les petits métiers. Et le quartier populaire aussi, c'est un quartier qui participe aussi d'un mouvement un peu d'exotisme de la ville. C'est ce quartier qui ne représente pas la modernité, la ville du quotidien pour le voyageur. C'est une ville un peu autre, un peu différente, un peu exotique.
C'est une ville qui ne change pas.
Oui, c'est une ville aussi qui ne change pas, qui est liée à des petits personnages typiques qu'on retrouve dans l'espace urbain. Donc, c'est lié à ces petits métiers dont je parlais, ce qu'on appelle les varines, c'est les vendeurs ambulants de poissons, les porteurs d'eau, etc. C'est tout un tas d'images et de représentations qu'on va retrouver dans certaines affiches, dans les cartes postales, mais aussi dans les premiers guides avec les photographies des premiers guides. Donc, c'est cette image là aussi qu'on retrouve par ailleurs dans le cinéma populaire des années 40. Donc cette image du quartier populaire, elle est à la fois une image qui est pour l'extérieur, pour le touriste, pour le voyageur, mais aussi qui a un usage interne dans ce cadre de l'échelle nouveau. Donc il y a vraiment une...
Et quel est cet usage interne, justement?
C'est cet usage de l'échelle nouveau qui a un rapport très ambigu à la ville, parce que cette ville, c'était la ville des républicains, donc qui pouvait être aussi source de contestation sociale. Les dernières grandes grèves de 1934, de grandes grèves de résistance à l'échelle nouveau ont lieu essentiellement dans les milieux urbains, plus sur les rives sud du Tage, mais dans ces milieux urbains. Donc la ville, pour être acceptée, pour être incorporée dans cette image traditionnelle du pays, de ce pays rural, traditionnel, elle doit être un peu
Elle doit perdre son identité ?
elle doit pas partir dans l'identité, mais elle doit être débarrassée de toutes ces marques, hein, de modernisme plutôt.
Oui, c'est alors, ça, et du social qui va avec.
Et du social, hein, par exemple, le quartier, un quartier comme le quartier Alcântara va perdre cette image de quartier industriel à cette époque.
Dites-nous un petit mot, s'il vous plaît, de ce travail qu'évoquait tout à l'heure Anaïs, que j'ai trouvé très étonnant en termes d'histoire, de travailler sur deux rues, donc qui sont une de l'Alcântara et une autre qui n'est pas dans l'Alcântara, qui est dans l'Alfama, deux rues, et sur, à partir des registres de baptême, de travailler sur la question des parrainages, qui sont les parrains des enfants, pour pouvoir voir si les relations, justement, des familles entre elles sont des relations de voisinage, et en quoi, justement, ces relations de voisinage finissent peut-être par faire un esprit de quartier, enfin, correspondent à l'image que l'on s'en fait généralement, un patron qui devient le parrain, par exemple, de l'enfant, de son employé, comment cela se passe-t-il? Et c'est très intéressant comme façon de faire de l'histoire que de s'intéresser à ces rues et à ce rapport entre familles.
Oui, j'avais pas complètement répondu à la question sur ce texte. En effet, cette image de micro-société, j'ai essayé de l'interroger de manière plus frontale, plus systématique, à partir des réseaux d'interconnaissance, hein, des réseaux de voisinage, pour voir si réellement il existait un resserrement, hein, de ce réseau dans l'espace urbain. Donc j'ai comparé deux quartiers, Alcântara et un quartier, une rue de la rue principale du quartier d'Alfama, donc dans ce quartier populaire dans le centre de Lisbonne. Et à partir donc de ces liens de compérage, hein, le lien entre le parrain le parrain marraine et les parents des enfants, j'essaye de reconstituer des réseaux de relations qui sont très difficiles, hein, pour l'historien de récupérer, enfin de retrouver dans des sources, hein, de manière systématique.
Et qu'est-ce que ça dit de l'urbain, justement, en descendant aussi près des maisons, pourrait-on dire, en descendant aussi précisément au cœur des familles, qu'est-ce que ça dit justement de la réalité ou non d'un quartier, de la réalité ou non d'une ville, et dans sa représentation extérieure et dans son espace vécu?
Alors, à partir de cette observation, enfin de cet indice, hein, on peut reconstruire dans ces réseaux et on trouve donc on a des réponses assez contrastées, assez complexes, évidemment. Dans le cas d'un quartier industriel d'Alcântara, il y a un resserrement très fort, hein, de ces liens de parrainage dans l'espace autour de la rue, autour du lien du voisinage. Et le quartier d'Alfama, qui est un quartier plus
commerçant.
C'est des liens beaucoup plus complexes avec des familles qui sont les familles plus populaires, qui sont plus resserrées dans l'espace, avec des liens plus resserrés dans l'espace, et des familles de commerçants, des familles de négociants, enfin des familles qui sont un peu plus haut dans l'échelle sociale, parviennent à avoir des relations beaucoup plus diversifiées dans l'espace, mm-hmm, et dans la région de Lisbonne. Donc là, on a un indice clair de ce rapport entre le lien de voisinage, mm-hmm, et la position, ou plus exactement la manière dont les personnes perçoivent leur position dans la hiérarchie sociale.
Ouais. Grégory Quenet voulait intervenir.
Oui, en écoutant Frédéric Vidal, on peut se demander si dans les sources dont on dispose pour les tremblements de terre, eh bien, ces réseaux de solidarité et de voisinage, en fait, n'ont pas été éclipsés par l'intervention
étatique et du marquis
de Pombal, dans la mesure où, sur le terrain de la catastrophe, eh bien, ce sont les habitants eux-mêmes qui gèrent, en fait, dans les jours qui suivent. Alors, cette étude n'est peut-être pas possible à mener à travers les sources disponibles, mmh, quoique je l'avais testé pour la ville de Manosque, par exemple, en 1708, à partir du marché immobilier, et il y avait une spéculation immobilière incroyable, enfin un marché des immeubles détruits, par exemple, et ce serait peut-être un biais, mais je pense qu'il y a une sous-estimation. On sait par exemple
de ces réseaux de voisinage.
Voilà. Par exemple, pour le tremblement de terre de 1985 à Mexico, on sait que ce sont les associations de quartier, les réseaux de solidarité, qui ont géré une grande partie de la catastrophe en réalité.
Alors de ce que vous nous racontez, Frédéric Vidal, de la construction touristique de cette ville de Lisbonne, un exemple, pourrait-on dire, un exemple artistique, celui de Wim Wenders quand il tourne Lisbonne Story.
Como é Como é o livro?
Grande.
Grande.
Ou pequeno?
O pequeno.
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 Mas o senhor
já fala
português.
Português?
Não fala bem.
Fala bem.
Sou estrangeiro.
Não falo bem. Sou estrangeiro.
É inglês?
Inglês?
Não. Sou francês.
Não. Sou alemão.
Em Portugal.
Mas mora em Portugal.
Primeira missão.
Slanishni.
Oui, parce que cette construction imaginaire d'une ville qui s'exporte, dont l'image s'exporte dans le monde entier, elle se fait par la littérature dans les années 20, dans les années 30, elle se fait, vous l'avez dit, dans le premier cinéma aussi, et elle continue de se faire encore aujourd'hui, Frédéric Vidal.
Je pense que c'est intéressant aussi, pour revenir un peu en arrière sur ce moment charnière du début de l'Echonov, des années 30, où il y a vraiment une transformation assez forte, une manière des représentations de cette ville. Et en même temps, il y a une politique touristique qui commence à s'affirmer à partir de 1911, à partir de la Première République. Mais à partir des années 30, il y a clairement l'Echonov va utiliser le tourisme et les politiques touristiques pour développer une image du pays. Et notamment autour d'un personnage très intéressant qui est Antonio Ferro, qui a été le premier directeur de la Société de Propagande Nationale, qui est un organisme qui est chargé donc développement de cette image touristique. Et on trouve dans les textes donc cette idée, pour revenir à cette idée du quartier populaire qui va accompagner toute l'image touristique de la ville jusqu'à la toute fin du XXe siècle, que Wim Wenders reprend dans son film. Mais en même temps, dans les congrès des années 1900, il y a un congrès national du tourisme en 1936, où on voit bien que les dirigeants de l'Echonov pensent le tourisme en termes aussi d'industrie, de commercialisation. Donc il y a déjà aussi cette idée de commercialisation de cette identité, de valorisation commerciale d'une identité populaire, d'une identité touristique de Lisbonne. Il y a là aussi tout un cheminement assez complexe, une identité qui a priori une identité traditionnelle, mais qui s'insère pleinement dans le développement d'une nouvelle industrie qui va accompagner
qui est le
tourisme.
Anaïs Quin.
Alors peut-être pour aborder une autre dimension potentielle de l'identité des Lisboètes, Grégory Connett, est-ce que vous avez noté, alors vous avez travaillé sur le tremblement de Lisbonne, mais sur bien d'autres tremblements de terre, est-ce qu'on peut noter que ces grandes villes qui ont connu et qui connaissent plusieurs tremblements de terre, puisque à Lisbonne il y en a eu d'autres, notamment dans les années 50, est-ce qu'on note une dimension d'inquiétude peut-être, ou en tout cas de préparation au fait de vivre un nouveau séisme dans une ville? Est-ce que dans une culture urbaine, dans une culture municipale même plutôt, on peut voir apparaître cette dimension du séisme potentiel qui créerait peut-être un rapport à la temporalité, un rapport à la pierre, un rapport à la ville qui serait très légèrement différent?
Le rapport urbain à la catastrophe est assez paradoxal, dans la mesure où, quand la catastrophe a un retentissement important, comme à Lisbonne, en quelque sorte, elle dépossède la ville d'une partie de l'objet lui-même. Et on peut lire Voltaire, le poème sur le tremblement de Lisbonne, sans se préoccuper de la vraie Lisbonne et de la ville. Donc il y a ce mouvement de dépossession d'un côté. Et d'un autre côté, ce qui est aussi assez paradoxal, c'est que finalement, la catastrophe permet une reconstruction des réformes qui ne seraient pas possibles en temps normal. Et elle, finalement, il faut que la catastrophe surgisse pour effacer ce qui a précédé.
Et vous l'avez noté dans d'autres villes que Lisbonne.
Oui, absolument. C'est très bien documenté pour les villes italiennes, en fait. Certaines des villes italiennes qu'on admire le plus, comme Messina ou Noto, ces cités baroques ont été permises grâce à des tremblements de terre.
Et dans les témoignages, d'ailleurs, notamment de ceux qui ont vécu le tremblement de terre des années 50, on note beaucoup d'usage du champ lexical de la Renaissance, du traumatisme, mais aussi de la Renaissance, d'une seconde vie, c'est-à-dire d'un temps qui s'est arrêté, qui tout à coup reprend, mais dans un contexte totalement différent. On change d'échelle, on change de plan.
Voilà. Et donc il faut oublier, en fait, il faut oublier pour surmonter la catastrophe. Et dans le débat organisé par le concours organisé par l'Académie de Rouen en 1756 sur la cause des tremblements de terre, le mémoire qui remporte le prix pose notamment cette question: comment se fait-il que les hommes oublient systématiquement les catastrophes qui ont précédé, reconstruisent au même endroit? Et bien précisément pour cette raison, parce que la catastrophe permet de reconstruire.
Oui, un dernier mot pour conclure, Frédéric Vidal, sur ce souvenir, pourrait-on dire, ou cette ombre portée encore du tremblement de terre de Lisbonne sur la ville que vous connaissez si bien et dans laquelle vous vivez.
Je ne crois pas qu'il existe d'études systématiques sur la mémoire contemporaine du tremblement de terre de 1755. Je m'avance peut-être un peu, mais je ne crois pas qu'il y ait une étude comme sur quelle est la mémoire au 19e siècle, au 20e siècle de ce tremblement de terre. Mais je reprends un peu les idées que vient de développer Grury Kenney. Oui, en effet, il y a ce paradoxe de cette mémoire, de cet événement qui est à la fois une catastrophe, mais qui est aussi signe de renaissance et de modernisation radicale, de changement radical de l'espace. Mmh. Et on a juste une petite précision. On a fêté il y a 10 ans le bicentenaire de ce tremblement de terre. Et à l'époque, il y a eu un ouvrage qui a marqué l'édition, un ouvrage de vulgarisation, enfin de qui était adressé au grand public, était précisément sur cette histoire du grand tremblement de terre. Et c'est probablement ces dernières années l'ouvrage qui a plus l'ouvrage d'histoire qui a été le plus vendu au Portugal. Et c'était sur cette mémoire du grand tremblement de terre de 1755. Donc c'est vraiment évidemment
un événement qui
originaire. Marque, original de la ville et de l'histoire de Lisbonne.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Vidal, et vous remercierez pour nous nos confrères de la RTP, la radio-télévision portugaise, qui vous ont accueillis dans leur studio de Lisbonne. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut universitaire de Lisbonne et chercheur au CRIA, que votre thèse, donc les habitants d'Alcantara aux presses universitaires du Septentrion, se trouve donc dans cette maison d'édition universitaire du Nord. Et quant à vous, Grégory Kenneth, merci encore. Vous êtes professeur à l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines, spécialiste d'histoire environnementale. Vous avez publié Les tremblements de terre au XVIIe, XVIIIe siècle chez Champvallon, et vous venez de publier très récemment un livre sur l'histoire environnementale de Versailles qui nous a beaucoup plu. Merci encore. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Olivier et Aurélie Marcet. Mariam Guillot était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Demain, nous continuons à nous intéresser
à ces villes. Après les rues de Lisbonne, les rues de Bagdad.
Les rues de Bagdad, ouais, et effectivement l'évolution d'une ville sur une très longue durée, avec deux spécialistes de cette ville qui viennent de l'Institut français du Proche-Orient.